Elisabeth et non pas Isabelle, comme c'est écrit notamment par Chazotte dans Benoît d'Entrevaux. Il y a Isabelle et Elisabeth, c'est le même prénom en fait. Isabelle, c'est la version espagnole. Et Elisabeth, c'est la version originelle plus. À la fin du 19e siècle, les gens cathos tradis préféraient Isabelle, qui évoquait Isabelle la catholique. En Espagne, qui est Isabelle de France, la sœur de Saint-Louis et tout, enfin bref, ils avaient une référence. Mais ici, chez nous, c'est Élisabeth, j'en ai la preuve ici, Élisabeth. Et alors, pour la petite histoire, il faut savoir que Sainte-Élisabeth, à l'époque, c'était Sainte-Élisabeth de Hongrie, qui est une reine donc, qui avait épousé donc, le roi de Hongrie, qui a été dépossédée de son trône. Donc elle a eu beaucoup de tribulations, cette Sainte Élisabeth de Hongrie, même si elle était fille de roi, c'est allemande d'origine, je crois. Et elle n'a vécu que 24 ans, elle a vécu pauvrement d'ailleurs, parce qu'ils ont été chassés du pouvoir, et elle a été sanctifiée par l'Église peu de temps après sa mort, vers 1250. Alors qu'elle est morte dans les 1220, 1230. Donc, le prénom Élisabeth, il est donné à l'époque, certainement en référence à cette Élisabeth de Hongrie. N'oublions pas que Bosas, on n'est pas encore franchement dans le royaume de France. On est dans une zone grise entre l'Empire romain germanique et le royaume de France. Alors, ça, il faudrait revenir en arrière. Il faudrait revenir aux petits-fils de Charlemagne qui se sont partagés l'Empire de Charlemagne en 843, et la partie centrale qu'on a appelée la Lotharingie, donc nous on faisait le Vivarais, enfin qui n'était pas encore le Vivarais d'ailleurs, le Viennois et le Vivarais faisaient partie de cette partie centrale. L'embryon de la France, c'est la partie occidentale qui s'arrêtait sur les monts du Velay, le mont de la Haute-Loire, si vous voulez. La limite était tracée, pareil qu'il avait fallu 1000 enquêteurs pour tracer la limite, mais du nord au sud, hein. Ça allait des Flandres à Rome, hein, pratiquement, donc vous pensez. Donc c'était les monts du Vivarais, c'était les montagnes qui vont du Pilat aux Cévennes, la limite. Donc notre partie était dans la Lotharingie, si vous voulez, et non pas dans le royaume de France si occidentale. Et donc, après, cette Lotharingie était invivable, c'était pas pensable de conserver un État qui allait la mer du Nord à Rome. Donc elle s'est décomposée et notamment on est sorti vers 870 à une entité qu'on a appelée la Bourgogne-Provence et pour laquelle un roi qui s'appelait Boson a été élu en 879, le royaume de Bourgogne-Provence. Donc ce Boson n'est pas le Boson qui a donné à Arlebeau l'église du Puy comme ça a été écrit trop souvent par les historiens qui ont confondu les deux personnages. C'est peut-être quelqu'un de sa parenté, mais on n'en trouve pas la preuve. De toute façon, on a très peu de sources sur ces périodes aussi anciennes. Hein. Ça remonte aux Carolingiens, là. Hein. Ce Boson, roi de Provence, est mort à Vienne en 887. Il était le beau-frère de Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, un des petits-fils de Charlemagne, par sa femme qui s'appelait Ermengarde, qui a un prénom germanique, alors que la femme de notre Boson d'Arlebeau s'appelle pas Ermengarde, elle s'appelle Margemburge, toujours pareil, Margemburge, Ermengarde. C'est germanique tout ça. Et donc ce royaume de Bourgogne-Provence, il s'est lui-même plus ou moins désagrégé après en plusieurs entités, encore que c'est devenu un peu. Il a été tiré vers le sud, un peu vers l'Italie, vers la Provence, plus que vers la Bourgogne. Et il a fini par être attaché au Saint-Empire romain germanique en 1040, qu'on n'appelait pas encore le Saint-Empire romain germanique, c'est l'Empire germanique, hein. C'était pas encore la dynastie des Habsbourg, hein. C'était les Ottoniens. Et donc c'est pour ça que notre Bosas et tout le Viennois, parce qu'on n'était pas en Vivarais à l'époque, on était en Viennois, faut pas l'oublier. Le Vivarais c'était autour de Viviers, dans le sud, qui est devenu l'évêché, qui était l'évêché d'ailleurs déjà. Et ça s'arrêtait à la rivière qui est près de Privas, à Louvèze, ou peut-être à Lérieux. Nous, on était en Viennois ici. Vous auriez dit, T'aurais rencontré quelqu'un en 1200 où il a dit on est en Pivarais, Késako. Je ne sais pas le Pivarais. En viennois, par contre. On dépendait de Vienne. C'était l'évêché, l'archevêché de Vienne, d'ailleurs. Et les seigneurs locaux, ils ont l'évolution des pouvoirs, là, elle est à écrire. Lafond l'a un peu fait, mais ils ont d'abord rendu. Il y avait l'église de Lyon, l'église de Vienne qui intervenaient. Et puis l'émergence surtout de la dynastie des dauphins du Viennois, qui n'étaient pas encore dauphins d'ailleurs. Donc les seigneurs d'Albon, dans la Drôme, qui sont appelés dauphins du Viennois après, puisque en fait, un de ces seigneurs d'Albon a pris le titre de dauphin là, à cette époque. Et quand le Dauphiné a été rattaché au royaume de France en 1350, on a exigé que le fils aîné du roi de France prenne le titre de dauphin, qui était en fait le deuxième prénom des sires des dauphins du Viennois, en fait. Donc, alors, la dévolution féodale, ce qui est certain, c'est que Bozas dépendait d'un seigneur qui était à Argental et à Mahun, des pagans de Mahun. Les pagans de Mahun, donc c'était des seigneurs. Étaient-ils complètement autonomes ou rendaient-ils hommage aux dauphins du Viennois, déjà, aux ancêtres des dauphins? Ça reste un peu controversé, c'est pas très clair. En tout cas, ils étaient très indépendants, ces pagans de Mahun, donc qui avaient à la fois l'Argental, donc à la limite de l'Ardèche et de la Loire, et puis Mahun, donc vers Vaux-de-Vent. Mahun, non, Mahun, Saint-Symphorien de Mahun, et Céret, Céret, à Vaux-de-Vent, la montagne de Céret, et au-dessus de Vaux-de-Vent. Donc, ils sont divisés en deux, et nous, Bozas, on dépendait d'un Aimon ou Aymar, pagan de Mahun. Donc, Notre-Dame de Bozas rendait hommage donc à ces pagans de Mahun. Alors on a deux traces de ces Bozas avant Élisabeth. Alors toujours pareil, c'est le livre de Benoît d'Entrevaux qui fait état d'une donation, d'une première donation en 1188 d'un certain Boson de Bozas aux Templiers dans la région de Vernou ou de Beaufre. Il donne une cabanérienne, c'est-à-dire une cabane, un truc rural en fait, aux Templiers. Et ce Boson est témoin, je crois. Oui, c'est le donateur, je ne me rappelle plus. Mais déjà, je n'ai pas retrouvé ce document. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il existe. Par contre, le deuxième document, ça, je l'ai retrouvé sur Internet. C'est une donation, une transaction des pagans de Mahun, où Boson de Bozas, ou un Boson de Bozas, apparaît comme témoin. Alors, je l'ai bien analysé sur Internet, cette donation, parce que non seulement il est témoin, mais parce que c'est rapporté toujours par Benoît d'Entrevaux et donc Michel de Chazotte. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il est en tête des témoins, il est qualifié de Milès, en tête des témoins. Donc ça prouve son importance, c'est le témoin le plus important. Boso des Bosonis, Milès, chevalier, ça veut dire. Chevalier, donc il est certainement chevalier au service des pagans de Mahun, qui sont là. Alors évidemment, on déroule les autres témoins, il y en a une dizaine, et on finit par témoin. Ils sont tous témoins. Mais on oublie de rapporter qu'il est Milès, c'est-à-dire chevalier, c'est le terme. Donc c'est quelqu'un quand même d'important. Alors, par contre, ce qu'on ignore totalement, c'est comment ce Boson de Bozas. Alors, c'est certainement pas le même que celui qui a donné en 188 la Cabanène, c'est un de ses fils ou petits-fils. Celui-là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que c'est le même, c'est pas possible. 1188-1242, ça fait trois d'écart à l'époque. Et c'est la même famille, c'est sûr, c'est probable, on n'a pas la preuve. Et donc, ça, c'est certain qu'il y a un Boson de Bozas en 1242 qui est Milès, chevalier, à Bozas. Alors, qu'est-ce qu'il a? Probablement une tour carrée, pas plus, qui est une tour de guet d'ailleurs, plus que défensive, parce que le XIIIe siècle, il n'y a pas tellement de. C'est surtout, il s'agit de faire voir son pouvoir. Pourquoi il est là? Mystère. Il est à côté du prieuré qui dépend de Cluny. Moi, mon hypothèse, c'est que... Alors, malheureusement, on n'a aucune trace de la donation du prieuré de Beauzas à Cluny. On n'en a pas. Je n'ai pas retrouvé. Peut-être qu'elle existe. J'ai fouillé un peu par Internet l'archive de Cluny. Je n'ai pas trouvé trace de la donation. Et ce que je sais, c'est que sur Internet, par contre, j'ai trouvé... il y a eu Cluny, ils étaient très bien organisés. Ils visitaient leur possession. Et ils ont fait une visite de Beauzas au XIIIe siècle. Donc à l'époque à peu près d'Élisabeth hein, et de Josserand de Lamastre. Hein, sur ce compte-rendu de visite, ils disent, les commissaires enquêteurs de l'abbaye de Cluny, que ce pauvre prieuré de Beauzas est dans un piteux état, il ne parle pas ce terme, quasiment en ruine déjà, ce qui veut dire que vraiment il a été fondé quand même au moins au IIe siècle. Hein. Voilà, et qu'il n'y a pas grand-chose à en tirer. Mais donc, vous voyez, enfin, il y avait quand même... voilà. Alors, moi, je me suis demandé si les claustres à Colombier-le-Vieux, ce n'était pas le siège du prieuré. Mais j'en sais rien. Voilà. C'est plein de mystères. On n'a pas de réponse. On n'a que des questions.